Vous écoutez France Musique.
Merci Françoise de Georges.
Chemin rêvant, Olivier Naum.
Bonsoir Gaston Kelman.
Bonsoir.
Merci d'être venu jusqu'à nous pour ce chemin rêvant. Vous signez chez Michel Lafon, Monsieur Vendredi en Cornouailles. Quel est votre rapport à la musique à vous, Gaston Kelman? Parce que quand on voit tous les livres que vous avez écrits, vous avez toujours été volontairement à contre-temps. On sait que vous avez signé évidemment « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », mais il y a eu une série de livres où vous dites les choses nettement. On pense à ce titre aussi qui est assez marquant et même musical. « Les Blancs m'ont refilé un dieu moribond ».« Les Blancs m'ont refilé un dieu moribond ». Est-ce que vous croyez que dans tout ce qui compose votre inspiration, la musique vous a appris à être un peu parfois et même souvent le poil à gratter, celui qui vient jouer des notes qu'on n'attendait pas grâce à sa façon d'écrire?
Merci de me poser cette question qui m'est posée pour la première fois. Et vous parlez, et c'est là que j'essaie de penser pourquoi peut-être j'ai un certain style. Ben, je pense qu'il y a là beaucoup de Brassens, il y a là beaucoup de Brel, il y a aussi du Piaf et de l'Aznavour. J'ai été bercé dès mon enfance à ces rythmes-là, à ces chansons qui sont tout sauf banales, quoi. Je veux dire, Brassens, il y a une façon de scander les mots, il y a une scansion, il y a surtout un message, il y a une façon surtout de le dire. Et Brel aussi, le maniement des mots par Brel, le maniement des expressions, l'inventivité des expressions. Je me souviens par exemple, prenons un exemple sur ils sont plus de 2000 Orly le dimanche, il dit il est montré du nez. Ah, ça, je trouve des expressions comme ça sublimes. Et je pense que cette poésie, cette chanson française m'a énormément marqué. Oui.
Parce que ce qu'il faut dire en arrivant, durant le générique, on discutait évidemment, et vous me disiez, Gaston Kelman, que ces Brassens et autres génies de la chanson, vous ne les avez pas découverts quand vous arrivez en France, d'ailleurs avec votre épouse. Ça paraît très logique, le scénario qui convient à tout le monde, mais bien au contraire, là-bas, sur votre terre natale et africaine.
Mais oui, le gorille, la pauvre Margot, le pauvre Martin et toutes ces chansons-là, je ne me souviens même plus quand est-ce que je les ai entendues pour la première fois. Et à l'époque, nous dansions au rythme de James Brown, mais de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan. Nous étions des adolescents, comme n'importe quel adolescent, dont les modèles étaient ceux-là. Et parce qu'effectivement, l'histoire, par exemple, des nations africaines, de langue française avec le français et la langue française et les médias français, et la musique française, elle n'est pas racontée. C'est un héritage sublime. Et avant même que je n'entende vraiment les chansons d'autres pays africains, j'avais déjà entendu beaucoup de musique française.
Mais soyons clairs, parce que sans doute que ce que nous échangeons là explique aussi la démarche qui guide votre façon de raconter l'histoire de Monsieur Vendredi en Cornouailles. Souvent, il est de coutume d'entendre un discours selon lequel, finalement, le colonisateur va coloniser les esprits, des fois de manière violente, et puis aussi des fois de manière insidieuse, voire charmante, au travers de ces emblèmes culturels que sont les chanteurs, que sont les musiciens. Est-ce que, d'une certaine manière, vous sentez avoir été victime de ce sorte de colonialisme culturel où on met d'abord dans vos esprits du Brassens plutôt que les vraies racines, entre guillemets, de la musique. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ou plutôt comme une chance?
Non, sincèrement, non. Ni chance, ni brutalité. Je me souviens de ces mots sublimes de Senghor, de Frantz Fanon, nous en parlions en off tout à l'heure. Frantz Fanon, Sartre fait une préface d'Orphée Noir et il pose la question de savoir ces gens-là, qu'est-ce que vous pensiez que quand ils relèveraient le dos, c'est-à-dire les anciens colonisés, est-ce qu'ils vous feraient hommage, est-ce qu'ils vous rendraient hommage, est-ce qu'ils vous embrasseraient? Et Fanon est surpris, il dit non, moi c'est la question ne se pose pas comme ça. Je ne vais embrasser personne, mais je vais maudire personne. Et si je pousse un cri, il ne sera point nègre. Je veux dire, par exemple, je ne vois pas en quoi le fait de découvrir une musique peut être un frein à mon développement personnel. À côté de cela, j'avais mes parents. À côté de cela, j'avais ma grand-mère. Je raconte, je suis capable de réciter le Cid comme je suis capable de réciter les contes de Luc Lièvre. Ça n'a été qu'un enrichissement. Je ne suis vraiment pas de cette angoisse-là qui veut que le colon soit venu me brutaliser. Et aujourd'hui, prenons un exemple. La France, par exemple, le monde entier est sous le joug d'une musique américaine dont 90% du produit vient des esclaves. Alors là, la France est colonisée par les esclaves américains et le monde entier. Est-ce que la musique, est-ce que l'art peut être mis dans le même panier que les coups de poing, que l'exploitation? Là, je veux dire, on peut avoir 1 milliard de tonnes d'art, ça ne repousse pas les autres arts. Ce n'est pas parce que j'ai entendu Sylvie que je n'aime pas Manu Dibango, que je n'aime pas le Kwakanza, que je n'aime pas Rochero, que je n'aime pas les polyphonies corses ou bien alors les chansons mandingues. Tout cela trouve absolument sa place dans ma musicalité. Et je vous assure que les choses dont je suis fier aujourd'hui, c'est de ces héritages-là immatériels que je serais parti chercher sans le colon. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux avoir envie de connaître la musique chinoise, je peux avoir envie de connaître la musique japonaise, et personne ne me forcera de le faire. Mais quand je les aurai découvertes, ces musiques, je serai un homme comblé. Et je voudrais vraiment qu'on comprenne la différence, que ce soit par rapport à l'Église, dont mon penchant est assez connu, que ce soit par rapport à la musique et à la langue française, par exemple, qui est un lien très très fort. Ça, cette richesse immatérielle, elle est totalement à désolidariser, effectivement, du colonialisme qui était, je veux dire, infantilisant, brutal, assimilateur et anéantisant la réalité de l'autre.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà, et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive. Mais j'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train, pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, j'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver.
Nous écoutions Jacques Brel, J'arrive, et cette voix de Jacques Brel, cet orchestre sous la direction de François Robert, enregistrement de 1968, nous a beaucoup inspiré de conversation, il faut le dire. Et en tout cas, vous nous avez prévenu, quand on vous a invité pour l'émission, cette chanson, J'arrive, a guidé Monsieur Vendredi en Cornouailles, qui est le fruit de votre imagination, mais aussi le fruit de la réalité, puisque vous racontez le destin incroyable de Kofi Annan, qui va devenir ministre de la République et qui a failli, qui aurait pu devenir président du Togo, finalement, dans la suite de l'histoire. Et vous avez dit, cette chanson a guidé mon interprétation de cette histoire. Et en écoutant Jacques Brel, eh bien, j'ai repensé à cette phrase que vous citez, que vous écrivez dans Monsieur Vendredi en Cornouailles. Vous écrivez: j'admire avec amusement ces personnes qui, au fin fond d'un village africain, dans les plaines désolées du Sahel ou dans les forêts inextricables du bassin du Congo, vous disent que quelque chose a fondu comme neige au soleil. Ils ne sont compris par personne. S'ils disent que cela a fondu comme huile de palme coagulée, alors ils sont compris par tout le monde. La référence au soleil devient inutile, car ici il fait chaud, même sous la pluie. Et ces quelques phrases symbolise bien finalement le côté relatif de ce j'arrive, puisque effectivement votre héros va quitter son Togo natal, sa terre natale, pour découvrir la France puis la Bretagne, mais d'une certaine manière il n'a jamais fini d'arriver.
Mais oui, je pense que le destin de l'homme c'est d'arriver. Brel dit: je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. Le destin de l'homme c'est d'arriver, on marche toujours, on ne s'arrête pas, statique on est mort. Et quand l'enfant de 7 ans part de son village parce qu'il a été coopté par un prêtre qui passait par là, qui a vu qu'il était intelligent et qui a voulu lui donner la chance de rentrer dans la nouvelle école qui, il faut le dire, allait être l'école de l'avenir, l'espace de formation des enfants pour le futur. Eh bien, il a dit, il était content, il est parti. J'arrive, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. À l'école, on lui disait tu iras loin, et puis on avait l'impression que cet homme était toujours en train de dire j'arrive, je suis prêt, il est disponible. Je pense que quand on a la liberté, je pense que c'est vraiment la plus grosse richesse, quand on a la liberté mentale de pouvoir faire ce choix, comme les parents d'ailleurs qui ont fait le choix. Vous savez très bien qu'il existe sur cette terre des millions de personnes qui leur auraient dit « Mais non, ne coupez pas ce gamin de ses racines, mais qu'est-ce qu'il est bien là où il est ?» On a toujours pensé que quand un enfant africain quittait le berceau familial, c'était une déchirure. Et je vous assure que ça n'a jamais été une déchirure. Très souvent, ça n'a jamais été une déchirure. Parce que ces gens-là sont prêts déjà à aller de l'avant, tout le temps. Et quand il y a une découverte, ils sont prêts à la faire. Et j'interviewais il n'y a pas très longtemps pour une presse un jeune homme qui a très très bien réussi. Il a une très belle entreprise ici en France, qui a une succursale en Suisse, qui en a une en Inde. Un jeune homme qui est venu de son Sénégal et puis comme son père était diplomate à 15 ans, il a dû quitter ses parents qui étaient en Yougoslavie pour venir à un internat français. Je lui ai posé la question, je pense que ça a été une déchirure pour toi. Il me dit, ben non. Pour moi, c'était extraordinaire. Il veut dire d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre d'une nouvelle population, de pouvoir à 15 ans montrer à mes parents que j'étais déjà un battant. Pour moi, c'était la chance de ma vie. Et il y a ça qui est très, très fortement implanté dans les mentalités de certains peuples, dont les peuples africains, qui fait qu'un gamin, c'est une initiation. Partir, c'est vraiment commencer et de dire au monde, j'arrive. C'est partir un peu comme ambassadeur de son peuple. Et quand Kofi revenait, par exemple, dans son village et qu'il voulait jouer, effectivement, le type qui veut faire « je suis toujours comme vous », on rigolait, on lui disait « mais non, t'es plus comme nous, si on t'a envoyé, c'est justement pour que tu ailles nous représenter quelque part ».
Nous venons d'entendre un extrait de ces 44 duos de violon de Béla Bartók, extrait qui s'intitule « En berçant l'enfant », interprété par Jan Talić et Agnès Pika. Ces morceaux, ces chefs-d'œuvre ont été construits par Bartók au moment où il quittait son pays, direction les États-Unis. Quittant sa Hongrie, il se souvenait de ses racines grâce à ses compositions. Et Gaston Kelman, on peut se demander finalement quel sens attribuer au mot exil, parce que dans le livre, quand vous parlez de ce petit Kofi qui allait devenir maire puis ministre, vous le faites parler et voilà ce qu'il nous dit. Qu'auriez-vous fait à ma place, je vous le demande, si un beau jour un homme étrange, on ne peut plus étrange, un homme blanc, on ne peut plus blanc, vêtu d'une interminable robe de femme, était arrivé dans votre village du fin fond de l'Afrique du Golfe de Guinée et s'était mis à vous regarder de manière intense et intéressée comme on regarde une friandise, un papillon coloré ou un bel oiseau de la forêt tropicale. Eh bien moi, je n'ai même pas eu peur. » Alors cet exil, finalement, il ne le ressent même pas, le héros. On pourrait dire que ce mot n'a plus de sens quand on
non, suit ceci. Non, ce n'est pas un exil pour lui, c'est un départ. J'arrive, parce que la terre est la terre des hommes. J'ai été très fortement marqué aussi par cette œuvre de Saint-Exupéry. La terre est la terre des hommes. Où est-ce qu'il ne sera pas chez lui? Partout, il sera chez lui, il se déplace vers la rencontre d'autres peuples, d'autres hommes, dont il fera désormais partie. Et il a si bien prouvé qu'on a vu où est-ce qu'il est arrivé, ministre et député, maire, élu par un électorat à 100% blanc, parce qu'on avait vu un homme, on n'a plus vu l'exilé, on n'a plus vu le différent, on n'a pas vu la minorité, on n'a pas vu la diversité. Il était un notable du cru, et voilà, tout s'est bien passé. Donc l'enfant Kofi qui a 7 ans part de chez lui, il dit même pas peur, j'ai même pas eu peur. Mes parents voulaient que je sois quelqu'un sur qui ils puissent avoir, en qui ils puissent avoir confiance, que je leur fasse pas honte, que je ne manifeste pas la peur. Donc il est parti et toute sa vie durant cette attente de mon père. Et puis d'ailleurs ça se retrouve très souvent dans le discours et le parcours de ses enfants, le désir de plaire au père en permanence. Barack Obama, les rêves de mon père, ça on connaît son livre là qui est un très très grand, justement un très grand livre aussi, qui présente comment est-ce que le père est toujours derrière la tête, comment je vais faire plaisir à mon père. Ce n'est pas en pleurnichant, mais c'est en réussissant. Et à partir de là, l'exil, soit on est seul, mais on trouve des hommes et des femmes qui s'occupent de vous, soit on est en groupe, et puis effectivement, vous trouvez aussi un territoire sur lequel vous allez reconstruire quelque chose de nouveau.
Mais ce violon que l'on vient d'entendre, vous l'aimez aussi, puisque en fait, c'est un instrument que vous auriez aimé jouer. Pourquoi vous avez ce lien avec le violon, qui est un des emblèmes de la musique dite savante et occidentale? Comment il vient à vous dans votre quotidien? Comment cette sensualité?
Une musique ne peut pas être occidentale. La musique n'a pas de pays. La musique a ceci, l'art, la musique. Elle a peut-être trouvé son espace de naissance sur quelque part. Et moi, je dirais pas un gamin de Paris qui voudrait jouer au du djembé aujourd'hui que de ne pas y toucher parce que c'est un instrument africain. Tout simplement parce que le violon, mais il n'y a rien de plus majestueux que le violon. C'est-à-dire que quand elle égrène ses notes, c'est d'une sensualité. Qu'est-ce qui ne pense pas à un soleil couchant? Qu'est-ce qui ne pense pas à un bord de mer? Qu'est-ce qui ne pense pas à l'immensité du désert qu'elle entend le violon, qui envoie ses notes à perte de vue. Et j'ai la même jouissance quand j'écoute la cora ou bien quand j'écoute surtout la flûte, que ce soit celle mexicaine ou bien la flûte des pays d'Afrique occidentale, le Mali. C'est la même sensualité musicale, c'est la même puissance musicale qui vous fait absolument partir. Autant la rythmique d'un djembé ou d'un balafon me mette les pieds sur terre pour que je me trémousse, autant les autres, je les écoute et puis je suis parti. Je m'évade. Et à partir du moment où une musique vous évade, elle vous appartient. Et c'est comme ça que par hasard, j'aime beaucoup le violon parce que vous vous évadez avec ses sonorités.
Paña. Y diablo. Oui, bidi 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 bidi.
Oh yeah.
Wabadam do bi.
Bébé Manga et Manu Dibango pour ce soir au village. Quand vous racontez l'histoire du petit Kofi dans Monsieur Vendredi en Cornouailles, il y a cette phrase qui peut surprendre. Quand on vient d'écouter justement Soir au village, vous écrivez « Mais est-ce vous ou est-ce Kofi ?» Et Aniane, avec qui vous avez partagé cette impression, vous écrivez au moment où justement ce petit garçon a quitté donc sa terre natale, puis arrive en Bretagne, et il écrit « Aussi loin que je m'en souvienne, la nostalgie de mon village n'a pas duré longtemps. J'ai souvent pensé à mes frères, à mes sœurs, à mon père, à ma mère, sans ressentir une tristesse particulière. Mais j'ai souvent pensé à ma mère, je n'ai pas honte de le dire, quand j'avais l'impression que chez ma tante à la ville, il n'y avait pas assez de nourriture dans mon assiette, qu'il n'y en avait moins dans mon assiette que dans celle de ses enfants. » Donc là, est-ce que effectivement, parce que ce morceau vous inspire de la nostalgie, quel rapport vous entretenez avec cette nostalgie du fameux, peut-être que c'est une représentation archétypale de l'occidental, de dire, mais il y a le village.
Oui. Non, mais justement, nostalgie, pas mélancolie. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand j'entends certains airs que ma mère chantait, ou bien quand j'entends certaines mélodies qui sont celles de mon enfance, évidemment, je frissonne. Mais je n'ai aucune envie de retourner à l'enfance. Je n'ai aucune envie de retourner à un espace où j'ai vécu qui n'est plus le mien aujourd'hui. On évolue aussi. Personnellement, je n'ai jamais vécu dans un village. Mais je sais aussi que mes amis africains, pour eux, ils sont rentrés dans cette logique que l'Afrique, c'est le village, c'est la tradition, le sorcier, le ceci. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Je suis désolé. Je ne vais pas inventer quelque chose que je n'ai pas vu. Mais par exemple, quand je pense à cette atmosphère de soirée, et c'était des soirées qu'on avait même en ville, et puis la maman nous racontait des histoires, parce que c'était comme ça, parce que c'était bien, c'était un mode d'éducation. Ma mère n'a jamais été à l'école. Mais par contre, effectivement, elle avait été à l'école de ses origines, qui était celle des fables, celle des histoires, celle des devinettes, et elle le faisait. Kofi le dit bien. Et je lui prête ces mots quand il dit que, évidemment, quand il y avait moins dans son assiette, là, il pensait à sa maman qui le chérissait autant que ses frères, et que là, il sentait un peu la différence, qu'il n'était pas vraiment l'enfant de la maison. C'est là qu'il ressentait beaucoup cette nostalgie. Mais à partir du... Évidemment, il avait aussi le fait que quand il allait à l'école, il retrouvait des jeunes comme ceux de sa place de village. Sa maman pouvait lui manquer, mais c'était quelqu'un qui avait été formé à aller de l'avant, à dire j'arrive à toujours avancer, à ne jamais reculer. Et si ça l'a pris assez de temps, eh bien ça l'a pris assez de temps. Et il y retournait, il avait l'occasion d'y retourner d'abord toutes les semaines, et puis ensuite tous les mois, et puis après, il y est retourné moins. Mais cette gradation lui a permis aussi cette évolution dans le temps et dans l'espace qui séparait les deux visites dans son village, lui a permis de devenir autre chose. Et ça je ne l'ai pas inventé, ça il me l'a dit.
Mais pourquoi justement il vous l'a dit? C'est un homme de lettres qui a fait des études de mathématiques. Pourquoi finalement il embrasse cette prose romanesque, la vôtre, pour raconter son destin? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Kofi Annan, personnage public dont on croit tout savoir, et on va s'apercevoir en lisant le livre que non, se dit, eh bien, voilà, Gaston Kellman avec sa prose, son sens de la formule, ce côté ethnologue qui est le vôtre, eh ben ça va. Il faut mieux raconter mon histoire comme ça. Comment est née cette idée, cette rencontre inattendue?
En fait, je vous assure que j'aurais dû me poser la question, mais je m'en souviens plus. Je sais qu'on s'est rencontrés, Elima, et je ne sais pas qui a été le premier à dire à l'autre, je ne pense pas que ce soit lui qui me l'ait dit. Mais j'avais déjà lu tout ce qu'on avait écrit sur lui. Et ça ne me satisfaisait pas beaucoup. Et je pense que lui aussi, il en était très très content, mais qu'il y avait peut-être un plus qu'il fallait ajouter. Et justement, ce j'arrive là, de la terre des hommes qui s'en va, qu'il n'y a pas à pleurer là-dessus, il y a tout simplement la rente des êtres humains. Moi, j'avais envie de le dire, et je me souviens encore, je me rappelle très très bien où nous étions. Nous étions au Lutetia, on prenait un verre parce qu'il habite pas loin de là. Et puis, je lui ai dit, mais écoute, monsieur le ministre, j'aime bien l'appeler monsieur le ministre. Et parce qu'il m'avait parlé de lui, il s'était mis à me raconter des anecdotes, celles que je raconte dans le livre. Comment est-ce qu'en Bretagne, on lui demandait parfois de faire de la magie? Comment est-ce qu'il a créé le comité d'animation? Comment est-ce qu'il a fait revivre la fest-noz, le fest-noz et tout cela? Et comment est-ce qu'un jour, au bord de la route, deux paysans lui ont dit « Eh bien, nous, on veut que tu sois notre candidat. » Et il n'en revenait pas. Il dit « Mais pourquoi moi ?» Il dit « Ben, pourquoi pas ?» Et à voir comment est-ce que ses yeux brillaient quand il me rencontrait cette rencontre, toutes les rencontres qu'il a eues en Bretagne. Et puis voilà comment est-ce que l'idée est née. Et le lendemain, je l'appelais au téléphone et puis on était parti comme ça.
Mais quand on écrit finalement en ayant la mémoire des souvenirs d'un autre, est-ce que parfois on s'auto-censure parce qu'on se dit, tiens, dans ce qu'a vécu Kofi, il y a peut-être un peu de l'enfance de Gaston Kellman. Est-ce qu'on arrive à faire la différence ou est-ce qu'au contraire, les deux destins se fondent finalement?
Absolument. Absolument, les deux destins se fondent. Quand je n'ai même pas voulu, Kofi n'a participé en rien à l'écriture de ce livre. Je veux dire qu'il m'a raconté, mais c'est moi qui l'ai écrit. Et quand sa femme, il m'a dit l'autre jour que quand sa femme a pris le livre à 19h, 20h, elle s'est couchée à 4h du matin. Elle avait fini parce qu'elle disait qu'elle retrouvait plein de choses. Elle lui demandait comment est-ce que je savais tout cela. Et Coiffure lui dit, moi, je ne lui ai pas dit tout cela. C'est lui, son génie d'écrivain, qui lui a permis. Mais c'est justement, vous venez vraiment de le dire, parce que les Coiffures, nous sommes des millions de Coiffures. Et voilà la réalité de l'enfance.
Qu'on soit du Togo ou du Cameroun,
qu'on soit du
d'ailleurs.
Togo ou du Cameroun, parce que, en fait, ce qui fait l'Africain aujourd'hui, ce n'est pas le passé précolonial. C'est la colonisation qui fait l'Africain aujourd'hui. Toute similitude en deux Africains vient du colonialisme. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas... Je veux dire, par exemple, le Sud-Africain n'avait rien à voir avec le Sénégalais avant l'arrivée du Blanc. Le Camerounais n'avait pas grand-chose à voir avec le Kenyan ou bien le même le Sénégalais. Mais le fait que nous ayons été instruits à la même école, que nous ayons eu les mêmes vibrations, que nos ancêtres aient peut-être eu les mêmes coups de fouet, il s'est formé un immatériel, il s'est formé quelque chose qui, enfin, nous unissait tous et qui faisait que je sais, ce que Coiffure pensait quand il partait de chez lui. Parce que j'ai ressenti la même chose le jour où moi aussi, comme par hasard, c'est un curé aussi, mais moi, ce n'était pas très très loin, le jour où on m'a pris d'abord pour la maternelle, j'étais à 3 mètres de chez moi, et puis le jour où on m'a pris aussi pour aller dans un séminaire catholique qui était à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. J'ai eu plus de chance que lui, parce que moi, c'était l'internat très rapidement et que l'école primaire était à quelques pas de chez moi. Mais c'est la même, je voyais les yeux de mon père qui pétillaient. Je voyais comment est-ce que mon père offrait chaque fin d'année une bouteille de bière à mes instituteurs. Et je voyais comment est-ce que quand j'avais une mauvaise note, il était malheureux. Donc je sais que tous les parents africains ont ressenti la même chose et que tous les enfants africains, celui-là qui est un peu plus jeune que moi, que j'interviewais il n'y a pas longtemps, à qui je demandais l'internat c'était quoi pour toi, il me dit c'est du bonheur. Et c'est vrai que quand nous nous entendons qu'ici l'internat, le pensionnat, c'est la punition suprême, nous sommes surpris. Mais parfois certains récupèrent ce langage, ah ouais j'ai souffert à l'internat, mais non. L'internat pour nous c'était l'immersion immédiate, c'était d'abord le fait qu'on ait choisi, qu'on est meilleur, et c'était l'immersion dans un univers qui allait être celui de nos rêves, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne retournera plus dans l'Afrique précoloniale. Et pour être le meilleur aujourd'hui, c'est pouvoir être un Africain, mais avec les atouts que tout le monde a aujourd'hui, le téléphone portable, la tête pleine de mathématiques, ou bien la tête pleine de poésie, ou la tête pleine de la langue chinoise, de la langue anglaise, ou bien d'algèbre, ou bien de géométrie, tout ce qu'on veut. C'était ça qui allait être l'Afrique nouvelle. Et pouvoir se positionner là-dedans, être coopté pour se positionner là-dedans, je vous assure que tout le monde avait une fierté. Sans faille d'être un élu, en quelque sorte.
Vous écoutez Chemin rêvant, Olivier Naoum, sur France Musique. Thank you.
Cécile Corbel, que nous saluons, nous a rejoint dans ce chemin rêvant avec Erin, extrait de son dernier album, puisque nous venons d'écouter Gaston Kellmann, une suite de danses bretonnes et irlandaises. Et ce qui est amusant dans ce récit romanesque mais vrai de la vie de Kofi Annan, c'est que vous écrivez « Que serait la Bretagne sans Fasnose ? Je ne sais pas pourquoi les Blancs ont ressenti le besoin d'attribuer la danse aux Noirs. Cette générosité est louable, il faut le reconnaître, mais je n'en maîtrise pas les motivations. Peut-être considéraient-ils les Bretons comme des Noirs ?» Quand vous avez discuté avec Kofi Annan, il y avait peut-être, par-delà le côté amusant de cette remarque, le fait que, oui, il y avait des éléments totalement imprévisibles de rapprochement.
Oui, je pense d'ailleurs en fait que, déjà hormis le fait que la danse n'appartient pas à un peuple, que la musique n'appartient pas à un peuple, c'est le même Brel qui disait « Je sais qu'il y a, parmi les plus malheureux, je sais qu'il y a des peuples sans musique, mais voir un ami pleurer dans cette chanson, un ami pleurer. » J'ai toujours pensé que, d'ailleurs j'ai défini la tradition comme la capacité de vivre en harmonie avec son espace physique, son environnement physique. Les gens de la forêt sont les gens de la forêt, les campagnards, les ruraux sont des ruraux, les gens de la mer sont les gens de la mer, les gens de la montagne sont les gens de la montagne. Et j'ai la conviction profonde que quelqu'un qui est par exemple d'une région forestière française est plus proche de quelqu'un qui est d'une région forestière africaine qu'il ne l'est de celui qui est du bord de la mer. Je veux dire, la cosmogonie est la même, le regard vers le sol pour cultiver, votre environnement vous forme énormément. Donc à partir de là, le Breton de la terre qui est un fermier, en cela Kofi a prouvé beaucoup effectivement de choses qui le rapprochaient de cette population-là. Et évidemment, je prends l'exemple de la musique où tout, et puis quand je lisais que tout s'est réduit à la musique, la naissance, la mort, le mariage, les semailles, les moissons, on tape sur la terre pour faire de la boue avec laquelle on va faire le crépi pour les murs. C'est-à-dire qu'on tape, on danse pour battre le blé ou tout cela. C'est les mêmes scènes, on retrouve exactement les mêmes scènes dans les mêmes environnements villageois. Et après, ces scènes deviennent le rythme avec la musique, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de battre le blé avec ses pieds, on n'a plus besoin de crépir les murs avec la boue qu'on aura pétrie avec son pas de danse. Mais voilà, effectivement, et même le troisième œil qu'on trouve beaucoup chez les Bretons, le mauvais œil, pardon, qu'on trouve beaucoup chez les Bretons, on le trouve aussi chez tous les enfants de la forêt, tous les peuples de la forêt, je veux dire, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amazonie, et faites attention, il y a le mauvais œil, la vache, ceci, et il y a des tas d'anecdotes que Kofi a vécues d'ailleurs, où on venait le voir en lui disant, toi tu n'es pas un homme comme un autre, tu dois voir quelque chose vraiment, moi mon mari est parti, il est parti avec sa secrétaire, et puis mes affaires ne marchent plus, fais quelque chose pour moi. Et ça le faisait rigoler que un Breton vienne lui poser ce genre de col.
Et dans Monsieur Vendredi en Cornouailles, on est surpris d'ailleurs de cette affaire, c'est qu'au moment où Kofi Annan était élu maire, il y a une dame qui vient de Paris, et parce qu'elle n'a pas d'appartement à Paris, et elle demande à ce maire, qui est quand même en Bretagne, en province, qui n'est pas encore ministre, elle demande « Mais est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un appartement ?» Comme si on prêtait une sorte de pouvoir étrange, en disant, mais lui, il doit avoir sans doute une recette secrète.
Il y a plusieurs anecdotes comme ça que j'ai reprises dans le livre. Il y a celle-là, effectivement, où vraiment au lendemain de son élection, cette femme vient, elle a un enfant handicapé, elle paye son transport, elle arrive de Paris en poussant ses enfants. Et déjà, on sait que Saint-Coulis, il n'y a pas de gare à Saint-Coulis, donc elle part, elle arrive au chef-lieu à Châteaulin, et puis elle arrive jusqu'à chez Kofi, et elle lui dit, bon, écoute, j'ai senti qu'il fallait que je vienne te voir. Il fallait que je vienne te voir. Kofi est vraiment pris de pitié pour cette dame-là qui lui dit qu'elle est dans une chambre de bonne avec des enfants, dont un handicapé, avec les WC sur le palier. Mais il ne sait pas, il ne peut rien faire. Chirac était maire de Paris. Et il dit à la dame, je ne peux rien faire. La dame lui dit, bon, moi, j'ai senti qu'il fallait que je vous voie. Je vous ai vu, au revoir. Elle est partie. Et Kofi a écrit une lettre à Chirac parce que ça l'amusait de servir de cher collègue à Chirac. C'est comme ça qu'il m'a raconté ça. le maire d'une commune de 400 habitants qui écrit au grand Chirac d'une commune de 2 millions d'habitants. Et donc, la commune, c'est quand même Paris. Donc, ce n'est pas Abidjan, ce n'est pas Douala, ce n'est pas Bamako. Et lui fait servir du cher collègue, ça l'a un peu fait rigoler. Mais sauf que deux mois après, le cher collègue lui répondait aussi, cher collègue, j'ai le plaisir de vous dire que vraiment, je me suis occupé de votre protégé. Protégé qui n'a plus jamais revu de sa vie, bien entendu, n'a plus jamais revu. Et une femme qui était venue aussi, elle dit, je suis venue vous voir, évidemment, elle était aveugle. Donc elle est venue voir Kofi, et lui dit, il fallait que je vous voie, que je vous touche, parce que j'ai senti quelque chose qui m'envoyait vers vous. Et là, on ne sait même plus dans quelle dimension on est. On ne sait plus dans quelle dimension on est. Est-ce qu'on venait voir l'Africain? Est-ce qu'on venait voir le maire? Mais on venait voir un homme, effectivement, dont le destin, moi aussi, m'a un peu interpellé, m'a fait frissonner. Parce qu'il est celui qui a permis de découvrir cette France-là, qui n'est pas la France des quotas, qui n'est pas la France des minorités, qui n'est pas la France de la diversité. C'est la France des hommes, tout simplement. Un homme arrive, il est bon, on reconnaît qu'il est bon. Voilà, c'est bien qu'il devient comme... C'est quand même surprenant de voir. On a parfois pensé que Kofi était le premier maire noir de France. Non, il y en a eu deux avant lui. Il y en a un qui l'est toujours, d'ailleurs, je pense. Je pense que Senghor est toujours maire aujourd'hui, Auguste Senghor. Il est toujours maire. Et il a été maire, je crois, depuis 76, quelque chose comme ça. Dans une commune de la Sarthe, je pense, il y a eu un Antillais qui a été maire, lui aussi, jusqu'en 40, quand il est parti à la guerre, qui malheureusement, il est mort à la guerre. Mais il y avait déjà eu. Et pourquoi? Pourquoi Kofi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? C'est pourquoi je dis, Brel dit, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi déjà? Et où aller? Mais il dit quand même, j'arrive. Et lui se posait des questions. Pourquoi moi? Et tout le temps, quand Mitterrand l'appelle, il dit « Pourquoi moi ?» Il n'avait aucun plan. Il n'avait aucun plan de carrière. Deux de ses concitoyens lui disent « On pense que c'est toi. » Il leur dit « Pourquoi moi ?» Et même, il dit « Je suis noir. » On dit « Et alors ?» Les gens ne comprennent pas que ce soit un argument.
Pour refuser de représenter la Bretagne.
Ils ne comprennent pas que c'est un argument. Après, il met de l'africanité en Bretagne avec son comité des sages, tout simplement, parce qu'il se dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas vieux, moi j'ai besoin d'eux. Et voilà, donc, voilà cet homme-là, il a quand même un destin, comme vraiment une éclaircie à un moment donné, un rayon de lumière dans une espèce de morosité. Et c'est pour cela que vraiment, pour moi, d'écrire ce livre à ce moment-ci, où on ne nous laisse pas respirer avec les diversités, avec les minorités, c'est rendre hommage à cette France profonde qui est la vraie. Qui est la vraie. Et une dame me racontait une anecdote qui a été reprise dans le livre. Comment est-ce que c'est quand elle a été à la retraite dans le Lot avec son mari, qu'enfin ils ont commencé à vivre. Parce qu'en région parisienne, on est noir avant d'être Jean. Là-bas, son mari est Jean, qui chante à la chorale, le mari de, je ne sais pas, Carole ou Nicole. Et enfin, quand on ne voit toujours pas, on dit, mais le noir qui? Mais il est d'abord, tu connais Jean? Non, lequel? Celui qui chante à la chorale. Ah oui, je ne vois toujours pas. Mais le mari de Nicole, la parisienne.
Cette rose avait glissé de la gerbe qu'un héros quêteux portait au monument aux morts. Comme tous les gens levaient leurs yeux pour voir hisser les couleurs, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route et m'en allais guérir au bonheur, la chance, un corsage à fleurir, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une rose par devers soi. La première à qui je l'offris tourna la tête avec mépris, la deuxième s'enfuit et court, encore en criant au secours. Si la troisième m'a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas fleurir de belles inconnues. On est tombé bien bas, Et ce pauvre petit bouton de rose a fleuri le veston d'un vague chien de commissaire. Quelle misère! Cette bouteille était tombée de la soutane d'un abbé, sortant de la messe, ivre mort. Une bouteille de vin fin millésimé, béni divin, je la recueille sans remords. Et je repris ma route en cherchant plein d'espoir, un brave gosier sec pour m'aider à la boire, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder du vin béni par devers soi. Le premier refusa mon verre en me lorgnant d'un œil sévère. Le deuxième m'a dit railleur de m'en aller cuver ailleurs. Si le troisième sans retard au nez m'a jeté le nectar, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas trinquer avec des inconnus. On est tombé bien bas, avec la bouteille de vin millésimé, béni divin. Les flics se sont rincés la dalle, un vrai scandale. Cette pauvre poignée de main gisée, oubliée en chemin par deux amis fâchés à mort. Quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé. Je la recueillis sans remords et je repris ma route avec l'intention de faire circuler la virile effusion, car c'est une des pires perversions qui soit de garder une poignée de main par devers soi. Le premier m'a dit fou le camp, j'aurais peur de salir mes gants. Le deuxième d'un air dévot me donna 100 sous d'ailleurs faux. Si le troisième ours mal léché dans ma main tendue a craché, le quatrième c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, et la pauvre poignée de main, victime d'un sort inhumain, elle a terminé sa carrière à la fourrière.
La rose, la bouteille et la poignée de main, Brassens, qui recoupe beaucoup de vos inspirations, Gaston Kellmann, puisque vous écrivez dans ce Monsieur Vendredi, à chacun ses associations d'idées. Moi, la chanson française m'inspire beaucoup. La rose, la bouteille et la poignée de main, le couplet généreux par excellence. Alors, cette chanson, en quoi elle joue un rôle déterminant, à la fois dans la vie de Kofi Annan, mais on a bien compris aussi dans votre... Là encore, dans votre destin à vous, d'écrivain.
En effet. Bon, Kofi, il va voir le maire pour lui dire, bah, écoute, monsieur le maire, je pense que nous devons faire ce, nous devons faire cela. On dit, franchement, si on avait envie de faire des choses, tu n'aurais pas entendu. Si tu veux aller rêver, continue à aller rêver chez nous ici. Et c'était peut-être la seule personne qui ne voyait pas Kofi tel qu'il était. Les autres le voyaient, mais le maire qui lui disait, mais non. Tu n'y comprends rien. Et moi aussi, c'est la même chose. Quand je crie, je hurle à la France, et tous les aspects positifs que je vois dans ce pays, mais je me dis, mais personne ne voit ma rose, ni ma main, ni ma bouteille de vin. Personne ne voit tout ce que je voudrais que nous voyions tous. La générosité de ce pays, dont l'élection de Kofi Annan en Bretagne, avec un seul électeur noir lui-même, et puis deux demi-noirs, ses enfants, qui n'étaient même pas encore majeurs pour pouvoir voter. Et cette capacité de la France profonde à ne pas voir la couleur. Évidemment, si Kofi avait été en région parisienne, il n'aurait pas été conseiller municipal parce qu'il ne correspondait pas au modèle de l'enfant de banlieue qui a été peut-être en tôle, qui a jeté des pierres et qui maintenant représente la négrité française. Et lui, je veux dire ingénieur, et c'est, non, c'est pour la région parisienne.
Il avait un destin trop heureux en quelque
sorte.
Oui,
il ne faisait pas pitié, il ne faisait pas assez pitié pour représenter le pauvre noir qui petit à petit peut être introduit dans l'espace français. Alors que la France réelle qui nous donne des leçons, maintenant nous, on veut des êtres humains, on est terre des hommes. Je dis toujours que la France a très peu, c'est peut-être le pays occidental, généralement c'est certainement le pays occidental, le moins raciste. Parce que le racisme le plus fondamental, c'est dans le refus atavique de la mixité conjugale.
C'est-à-dire que l'amour est le seul moteur d'une relation durable.
Exactement. À partir du moment où quelqu'un vous donne sa fille, je vous assure, il ne sait même pas à quel point il vous accepte. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, vous êtes président de la République, mais les mariages mixtes là-bas aujourd'hui sont portions
comprises. Même quand on s'appelle Obama.
Obama épousait une blanche et les WASP pourraient considérer ça comme un défi. Il a pris une autre femme et cela ne se serait pas passé comme ça. Et c'est un type qui n'avait aucun avenir s'il avait épousé une blanche. Mais par contre, dans l'espace public, puisque là-bas, c'est le rêve américain, il est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, le noir peut être shérif aux États-Unis, après évidemment toutes les aigreurs qu'ils ont eues. Et le noir peut être président, le noir rentre dans le rêve américain aujourd'hui. Mais les rêves américains étant un rêve cloisonné, les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, mais l'espace public appartenant à tout le monde. Alors qu'en France, c'est exactement le contraire. La France est un pays où il y a un racisme social. Ce n'est pas moi qui l'invente. Quand vous envoyez votre CV, on vous dit surtout ne mettez pas d'où vous venez. Parce que l'enfant de Barbès, il a beau être un génie, il ne vaut pas encore l'enfant du 6e ou du 7e arrondissement. Et là, noir ou blanc, jaune ou vert. Et malheureusement, c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. Et je pense qu'à partir du moment où nous sommes capables de comprendre que terre des hommes, la couleur n'a pas d'importance, il faudrait aussi que tous ceux qui nous dirigent et qui ont leur petite caste qui siège à l'Assemblée ou bien qui dirigent certaines grandes entreprises ou bien qui ont des espaces privilégiés qu'ils veulent préserver, qui comprennent aussi que ce n'est pas le modèle un à la télé, un à l'Assemblée. Non, moi, honnêtement, le noir à l'Assemblée ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'il n'est un modèle pour personne. Le noir à la télévision ne m'intéresse pas du tout. Parce que le modèle du gamin, c'est d'abord son père et sa mère. C'est là que tout commence. Quel est le gamin de 5 ans qui a envie de ressembler à Harry Rosenmack, par exemple? Non, il a d'abord envie de ressembler à son père et à sa mère, puis à son instituteur, ensuite à son médecin, et puis après peut-être au chauffeur tout simplement de bus qui les ramasse tous les jours, et puis peut-être à son professeur de sport. C'est là les modèles. Et c'est pour cela que je suis très heureux de voir qu'il y a une classe moyenne qui n'intéresse personne, hélas, une classe moyenne issue de l'immigration qui prend une ampleur énorme. Combien y avait-il de médecins noirs en France il y a 20 ans? Combien y en a-t-il aujourd'hui? Je suis sûr qu'il y en a 200 fois plus. Et le malheur, c'est que quand vous le dites aux gens, vous dites « Mais oui, mais Gaston, c'est des Togolais et puis il n'y a plus de médecins togolais en région parisienne qu'à Togo. » C'est faux! C'est des gamins nés à Barbès, c'est des gamins nés à Sarcelles, c'est des gamins nés à Poitiers, c'est des gamins nés en France. Ils sont devenus médecins, ils sont devenus professeurs, ils sont devenus policiers, ils sont devenus militaires. Et cette classe moyenne commence à avoir vraiment beaucoup d'importance et c'est celle-là qui m'intéresse. Plutôt, vraiment pour terminer une dernière petite anecdote.
Mais on vous en prie, vous êtes
voilà.
Là pour...
J'étais parti un jour porter mon évangile dans un collège des ZEP. Évidemment, j'étais toujours, à l'époque, je pensais qu'il fallait un modèle et que pour moi, c'était Yannick Noah. Je disais aux gamins, vous allez être Yannick Noah. Est-ce qu'Yannick... Je vous assure que ces gamins ont eu le bonheur de ne pas me cracher dessus. Ils me regardaient comme un démuré. Ils me disent, il y en a un qui me demande seulement, monsieur Kelman, je lui dis oui, il y aura combien de Yannick Noah? Ben évidemment, aujourd'hui, on espérait que Joe Wilfried Tsonga allait être le deuxième Yannick Noah. 30 ans après, on n'a même pas réussi, 30 ans après, ni blanc, ni noir, ni vert, ni jaune, d'avoir un deuxième Yannick Noah. Alors que les médecins, on peut en avoir à la pelle, alors que les professeurs, on peut en avoir, les infirmiers, les chauffeurs, les tout, on peut avoir tout. Et pensez que ce que nous devons faire comme ériger comme modèle, c'est un noir à la télé, un noir à l'Assemblée, un noir au Sénat, un noir machin. Si on oubliait tout cela, on aurait des maires comme Kofi Nyamian a été maire tout simplement parce qu'il était bon. On aurait des élus tout simplement parce qu'il était bon. On n'aurait pas des élus parce qu'il a été coopté pour un peu noircir un peu tel espace de représentativité sociale.
Mmh. solamente una vez. Amé en la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Solamente una vez
se entrega el alma
total
renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Et en guise de conclusion et d'épilogue, la douce voix de Nat King Cole pour Solamente una vez, puisque on découvrira, n'est-ce pas Gaston Kellman, que cette chanson joue un rôle, on va dire un rôle de charme.
Tout à fait. Kofi, quand il est rentré le soir, un soir d'une manifestation, il avait été très heureux. Il l'a mise et elle a bercé le sommeil de sa femme. Et il était vraiment très heureux. Hay campanas de fiestas que cantan en el corazón. Il disait que les cloches de fête chantaient dans son cœur. Hay campanas de fiestas que cantan en el corazón, comme dit Nat King Cole.
En tout cas, merci Kofi et Yann d'être venus partager par le biais de vous, Gaston Kellman, ce destin, puisque vous étiez venus nous raconter, nous faire découvrir ce Monsieur Vendredi en Cornouailles, édité chez Michel Lafon. Et puis avec vous, c'était la musique des mots qui a nourri ce moment partagé. Et puis pour conclure, on pourrait citer cette phrase qui est de vous. Vous dites « Le noir n'est pas plus que le blanc, tous deux sont des illusions d'optique. » Le noir n'est pas plus que le blanc, tous deux sont des illusions d'optique. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Nous saluons Philippe Palares, Françoise Cordier et Anna Cassery. Et pour conclure, votre mot fétiche peut-être ?
Fraternité.
Voilà, fraternité.
Tout simplement.
Excellente conclusion. Merci.
Merci beaucoup.